Naomi, sa belle-mère, lui dit, « Ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu sois heureuse. » Et maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, il doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Lave-toi et oint-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger de boire. Ruth, chapitre 3, et verset 1 à 3. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite, va, découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Elle lui répondit, je ferai tout ce que tu as dit. Seigneur notre Dieu, nous voulons te louer, te bénir, Seigneur, parce que tu nous as donné ton esprit, Seigneur. Tu as ouvert notre esprit, Seigneur, pour que nous puissions comprendre les choses qui viennent de toi. Les choses ne sont pas toujours faciles à comprendre, Seigneur, mais tu t'es révélé à nous dans nos vies un jour et nous avons cette espérance, Seigneur, de passer l'éternité avec toi. Nous sommes tes enfants et à travers cet enseignement ce matin, Seigneur, tu veux nous faire grandir de notre connaissance et de notre foi de la personne de Jésus-Christ. Béni sois-tu, Seigneur, et que tu puisses avoir une parole pour chaque personne ici présente ce matin. Au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Donc, mon passage ce matin, et ça fait plusieurs semaines qu'on écoute une série de messages sur Ruth. Et ce matin, j'aimerais m'arrêter uniquement sur le verset 3. Lave-toi et oint-toi, puis revêt tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Enfin, c'est ça, les occasions spéciales nous appellent à paraître sur notre meilleur jour. Certains événements nous appellent à faire bonne impression, à agir du mieux que nous pouvons et apporter ce que nous avons de nouveau. Et dans le passage que nous examinons ce matin, nous découvrons qu'il y a un événement dans la vie de Ruth qui va l'amener à paraître sous son meilleur jour. Dans la culture occidentale, les actions qui vont se dérouler devant nos yeux peuvent paraître bizarres, voire agressives et discutables dans le passage de ce matin. Pourtant, Naomi va enseigner à Ruth à faire quelque chose qui était normal de faire et qui était d'usage courant chez les Juifs à cette époque. En fait, notre texte nous révèle que Ruth est sur le point de se fiancer avec Boaz. Et heureusement qu'on ne se fiance pas tous de cette façon-là. Heureusement, la culture occidentale est différente, parce que vous allez voir la manière qu'elle va s'y prendre, en fait, pour pouvoir, vous allez voir la semaine prochaine, mais la manière qu'elle va s'y prendre pour montrer à Boaz, finalement, qu'il est un parent rédempteur, c'est-à-dire un parent qui a le droit de l'attacher, parce qu'il est veuve et que c'est un proche parent. Les instructions que Naomi va transmettre à Ruth sont les suivantes. Lave-toi et oint-toi, puis remets tes habits. Et Naomi voulait que lorsque surviendrait ce glorieux événement, Ruth paraisse sous son meilleur jour. Je pense que quand on rencontre des gens, quand on voit des événements particuliers, eh bien, on s'habille de façon à bien paraître. C'est tout à fait normal. Et ici, eh bien, c'est ce que Naomi va, vous allez voir dans les trois, hein, lave-toi, oint-toi et remets tes habits. Que Naomi veut que Ruth eh bien, paraisse sous son meilleur jour. Frères et sœurs, un jour viendra où, après avoir été les ouvriers dans l'œuvre du Seigneur, nous deviendrons l'épouse du Seigneur lors des noces de l'agneau. Et à travers différents chants ce matin, à travers aussi une prière ce matin, on a parlé des temps à venir, on a parlé du retour de Jésus, on a parlé de tout ce qui nous attend. En fait, hein. Et il y a une chose qui est sûre, quand arrivera ce moment, nous voudrons paraître sous notre meilleur jour. Il est écrit dans Apocalypse chapitre 19, verset 7 et 9. Ceux qui ont leur Bible ce matin. Apocalypse chapitre 19, verset 7 à 9. Aussi pour ça, j'ai mis la Sainte-Seine à la fin, parce qu'on va parler des noces de l'agneau, ici. Et cette table nous rappelle qu'un jour, on sera tous rassemblés ensemble. On sera tous, qu'on est tous invités par le Seigneur à participer à ce repas. Ce repas des noces de l'agneau. C'est-à-dire les frères et sœurs en Jésus-Christ, qui ont rencontré le Seigneur Jésus d'une manière tout à fait personnelle, qui sont passés par cette nouvelle naissance, qui transforme les vies, qui nous ramène à la ascendance de Dieu, perdu par Adam dans le jardin d'Éden à cause serons rassemblés tous ensemble aux noces de l'agneau. Alors, pour ceux qui ne savent pas comment Abraham, ni Adam, ni Noé rassemblés, vous allez les rencontrer à la table des noces de l'agneau. On va les rencontrer, ces gens-là. Ces gens qui nous ont précédés, c'est extraordinaire. Qui nous ont précédés, qui sont déjà dans le royaume de Dieu, qui sont en haut dans la présence de Dieu, et qui attendent que la dernière personne qui se convertisse puisse le faire, afin que Christ revienne et vienne chercher son Église. Réjouissons-nous et soyons heureux. Rendons-lui gloire. Car le moment des noces de l'agneau est arrivé et son épouse s'est préparée. L'épouse de Jésus-Christ, c'est son Église. Amen. Elle a été autorisée à s'habiller d'un fin tissu de lin, brillant et pur. Et je ne sais pas dans ma Bible, mais dans la Bible, en parenthèse, c'est marqué que le tissu de lin représente les œuvres justes des membres du peuple de Dieu. Pas ce que le peuple de Dieu a dit, parce que Jésus a dit qu'on devrait rendre compte de toutes les paroles qu'on aura dites en secret. Contre un, pour un, mais on devra rendre compte de toutes les paroles qu'on aura dites en secret. Dieu les entend toutes nos paroles. Mais ici, il parle des œuvres justes. Les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour son Église. Amen. Heureux donc ceux qui ont été invités au repas des noces de l'agneau. Et frères et sœurs, peu importe ce que vous vivez ce matin, ne vous privez pas de participer à cette table, parce que le Seigneur dit heureux ceux qui ont été invités. C'est un privilège extraordinaire pour les enfants de Dieu de participer à ce repas. Ne laissez rien vous empêcher de participer à ce repas. C'est pas moi qui vous invite ce matin, c'est le Seigneur qui vous invite ce matin. C'est pas les membres du conseil qui vous invitent ce matin, c'est le Seigneur qui vous invite ce matin. Si aucun membre de l'Église vous invite ce matin, c'est le Seigneur Jésus, crucifié, mort pour vos péchés, ressuscité, qui va transformer votre misérable corps mortel un jour, vous le rendre semblable au sien, qui vous invite à participer à ce repas ce matin. Et ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire de savoir que le Dieu Tout-Puissant qui tient l'univers dans ses mains vous invite à participer à ce repas uniquement parce que par la foi, vous avez accepté que Jésus-Christ paye le prix de vos péchés sur la croix. Frères et sœurs, quand on se prive de prendre un repas, il faut avoir une sapristi de bonne raison pour ne pas participer au repas de la Sainte-Sainte. Le Seigneur vit dans nos cœurs ce matin. Et on a besoin d'avoir une bonne raison pour ne pas participer à ce repas. Vous ne m'insulterez pas, vous n'insultez pas personne. Mais faisons attention de ne pas insulter le Seigneur. On ne se prive pas pour n'importe quoi pour le repas de la Sainte-Sainte. Ça nous coûte tellement cher. Ce n'est pas des raisons minables qui nous de participer à ce rapport. Le prix est élevé. Et le Seigneur nous donne toutes les opportunités avant de prendre ce rapport, de confesser nos péchés, de lui demander pardon. Il nous dit, Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai oublié le prix que tu as payé. Le ticket d'entrée pour que je puisse participer à ce rapport. Le ticket d'entrée permet de prendre participer aux noces de l'année. Heureux donc ceux qui ont été invités au repas des noces de l'agneau. Et tous ceux qui sont invités ce matin, c'est tous ceux qui, après avoir accepté Jésus-Christ, ont manifesté leur obéissance à la parole de Dieu, qui ont passé par les eaux du baptême, c'est-à-dire le baptême des croyants. La Bible ne dit pas sois baptisé et crois, elle dit crois et sois baptisé. Dans Marc, c'est la parole de Jésus. Crois et sois baptisé. Pourquoi? Parce que c'est une décision personnelle, c'est un engagement de croire. Et ensuite, d'obéir à la parole, de passer par les yeux de la parole. Très heureux donc ceux qui ont été invités au repas des noces de l'agneau. En tant que futur épouse du Seigneur Jésus, nous voulons nous préparer, car lorsque viendra l'heure, nous voulons paraître sous notre même jour. Alors que nous nous préparons à rencontrer Jésus-Christ autour de son trône, nos actions devraient correspondre aux mêmes actions que celles entreprises par Ruth, alors qu'elle se prépare à rencontrer Boaz à l'ère de bataille. L'ère de partage, l'ère de valage. Enfin, ça nous rappelle qu'il faut nous préparer à rencontrer Jésus afin d'être à notre mieux lorsque nous le verrons face à face. Les gestes posés par Dieu nous rappellent que nous devons nous purifier. Nous lisons verset 3, et la première chose que Naomi a enseigné à Ruth, c'est de se purifier. Il dit, lave-toi, lave-toi. Frères et sœurs, le repas de la Sainte-Sainte nous rappelle qu'on a été lavé par le sang de la nuit. Souillé de nos péchés, taché par tout ce qu'on faisait de mal. Dieu nous a revêtu d'un vêtement de justice, celui de Jésus-Christ. Il s'est dit. Que le Seigneur nous apporte ce matin. Lorsque nous rencontrerons notre roi céleste, nous voulons le rencontrer sans tache et sans souillure. Il est plus heureux ceux qui lavent leur robe et qui ont ici le droit de manger le fruit de l'arbre de vie et d'entrer par une porte dans la ville. Apocalypse chapitre 22, verset 14, ceux qui ont leur Bible ce matin. Heureux, encore une fois, ceux qui lavent leur robe, ceux qui se purifient, ceux qui ont un cœur pur et qui ont ainsi le droit de manger. Regardez ce que vous avez le droit de manger. Le fruit de l'arbre de vie. Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, pour manger du fruit de l'arbre de vie. Lorsqu'ils ont péché, le Seigneur, pour les empêcher de vivre éternellement dans le péché, qu'est-ce qu'il fait? Il prive de manger de l'arbre de vie. Il place deux chérubins à la porte du jardin d'Éden pour empêcher Adam et Ève d'entrer dans le jardin. Et on parle de Genèse, on arrive à l'Apocalypse, on rentre dans un autre monde et on dit quoi? On voit apparaître l'arbre de vie sur cette nouvelle terre. Extraordinaire, hein? Parce qu'Apocalypse 22, la nouvelle terre, les nouveaux cieux sont déjà descendus. La nouvelle Jérusalem, elle est déjà installée. Et les seuls qui peuvent rentrer dans la nouvelle Jérusalem, on étudie ça pendant 2 ans, on rentre en soir. Les seuls qui peuvent rentrer dans la nouvelle Jérusalem, c'est ceux qui sont matin qui sont invités à participer à ce repas. Jérusalem.
La gloire de Dieu règne dans cette nouvelle Jérusalem. Dieu va habiter avec son peuple, au milieu de son peuple. C'est extraordinaire, ça. Hey. Pas de soleil, il n'y a pas de nuit, il n'y a pas de jour dans la Nouvelle-Jérusalem. Parce que la Nouvelle-Jérusalem va être éclairée de la gloire de Dieu. On ne peut pas penser, on ne peut pas s'imaginer. Vous imaginez quand vous comparez le soleil avec la gloire de Dieu, et le soleil, c'est une ombre à côté de la gloire de Dieu. Pas pour rien que personne ne peut voir Dieu et mourir, et vivre, pardon. La gloire de Dieu, on ne peut pas s'imaginer ce que c'est la gloire de Dieu. Incroyable! Moïse a rencontré le Seigneur sur la montagne, et quand il descendait, pour ne pas aveugler les membres du peuple, il devait mettre un voile devant son visage. Incroyable, quoi! Et il n'a pas été dans la gloire de Dieu. Dieu est passé devant lui. Ouais. Extraordinaire! Frères et sœurs, heureux ceux qui lavent leur robe et qui ont ainsi le droit de manger le fruit de l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville de la Nouvelle-Jérusalem. Il est écrit qu'un jour, il y aura une grande persécution. Apocalypse chapitre 7, versets 9 à 17. On va lire ça ce matin. Je pense que c'est encourageant. Bon, pour vous mettre dans le contexte, c'est qu'il est écrit qu'un jour, il y aura une grande persécution sur la terre. Pour ma part, je pense que la grande persécution, ça va être la même, ça va ressembler à la première que la première Église a vécue. Et je pense que la dernière Église, c'est pas un dogme, hein, c'est ma position, animée à les Écritures. Je pense que la dernière Église, le Seigneur va lui permettre aussi de passer par de grandes tribulations, de traverser les grandes tribulations pour aussi faire un tri, c'est ce que Pierre nous dit. Il est écrit qu'un jour, il y aura une grande persécution sur la terre et qu'un grand nombre de personnes se convertiront en Jésus-Christ. Après cela, verset 9. Je regardais encore, je vais la lire dans le français courant, hein. Et je vis une foule immense. Personne ne pouvait compter tous ceux qui en faisaient partie. C'étaient des gens de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, habillés de robes blanches, avec des branches de palmier à la main. Ils criaient d'une voix forte, « Notre salut vient de notre Dieu qui est assis sur le trône ainsi que de l'agneau. » Et un peu plus loin, l'un des anciens me demanda, « Qui sont ces gens habillés de robes blanches et d'où viennent-ils? » Je lui répondis, « C'est toi qui le sais, mon Seigneur. » Il me dit alors, « Ce sont ceux qui ont passé par la grande persécution. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils se tiennent devant le trône de Dieu et servent Dieu nuit et jour dans son temple. » Frères et sœurs, voyez-vous ici la différence incroyable? Aujourd'hui, ce sont les anges. Ce sont les anges qui se tiennent devant le trône de Dieu. Dans la Nouvelle Jérusalem, pour l'éternité, les enfants de Dieu vont se tenir devant le trône de Dieu. Dieu va être au milieu de son peuple. C'est incroyable, c'est extraordinaire. On continue ici. Qu'est-ce qu'il dit? Celui qui est assis sur le trône les protégera par sa présence. Alors, quand on parle de la présence de Dieu dans la parole, c'est synonyme de protection. Dieu nous protège. Dieu est présent dans nos vies. Dieu nous protège. Ça parle de la protection de Dieu. Ils n'auront plus jamais faim ni soif. Un peu plus loin, car l'agneau qui est au milieu du trône sera leur berger et les conduira aux sources d'eau vive. et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Frères et sœurs, c'est pas extraordinaire, ça. Hein? Plus de larmes. Parce que le diable aura été détruit. Parce que le péché aura été détruit. Parce que la mort aura disparu. Et pour être en mesure de rencontrer le Seigneur, ça implique qu'il doit avoir une prise de conscience du péché. Psaume 139, verset 23-24. Ça, c'est une prière qui a bouleversé ma vie, ça. Psaume 139. À un moment donné, je pensais que je progressais dans ma vie chrétienne, mais j'ai commencé à méditer sur cette prière-là. Et finalement, le Seigneur m'a montré que j'avais progressé, mais j'étais encore très loin de ressembler à Jésus. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Le chemin étroit qui mène à la vie éternelle, eh bien, c'est la voie de l'éternité. Et là, ensuite, vous allez à 143, verset 10. C'est encore la prière, hein? Ça continue. On peut la rajouter à cette première-là. Sonde-moi, ô Dieu, connais mes pensées. Éprouve-moi, connais mes pensées, pardon. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite, la voie de l'éternité. 140, verset 14. Et on va terminer avec ça. C'est pas encore une prière. La même prière, si on veut. Car je sais que les justes célébreront ton nom, Seigneur. Les hommes droits habiteront devant ta face. Et moi, quand j'ai demandé au Seigneur, sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, eh bien, j'ai été brisé, quoi. J'ai été brisé parce que je me suis aperçu. J'ai dit à Seigneur, ça voulait dire quoi? Regarde jusqu'au fond de mon cœur, Seigneur, qu'est-ce qui habite dans mon cœur? Sonde-moi, Seigneur. Sonde-moi. Sonde-moi, regarde si mon cœur t'appartient vraiment, Seigneur. Et là, c'est bizarre, hein? Le Seigneur a commencé à mettre en lumière des choses, des manquements dans ma vie, des corrections que je devais faire dans ma vie. Sonde-moi, oh Dieu, regarde jusqu'au fond de mon cœur. Et fais-moi connaître s'il y a des choses qui ne marchent pas, s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas par rapport à toi, Seigneur, mets-les en lumière. David dira dans le psaume 51,4, « Lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché. » Lavez, le mot « lavez ». Laver. Seigneur, efface. Effacer, c'est laver. Effacer, c'est laver. Et il y avait une belle illustration que j'avais entendue un jour de quelqu'un qui disait ceci, c'est que vous prenez un grand tableau. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est Internet et tout ça. Mais avant, on avait une craie, hein, avec on écrivait au tableau. Et c'est comme si vous dressiez toute la liste de vos péchés. Toute la liste de vos péchés avec une craie. Et puis là, à un moment donné, imaginez-vous que là, vous dites au Seigneur, écoute, Seigneur, j'ai confessé mes péchés, je voudrais que tu les effaces. Et là, le Seigneur, il prend la brosse. Et là, vous voyez toutes les listes des péchés que vous avez faits et que vous avez mis sur un tableau. Elles tombent toutes en poussière et elles dégringolent dans une genre de gouttière. Je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais une forme de gouttière. Hein. Et là, il n'y a plus rien sur le tableau. Tout a été effacé. Bien, quand on dit que Dieu efface nos péchés, essayez après de reprendre chaque morceau de poussière et de recomposer chacun des péchés que vous avez mis. C'est impossible. Et quand Dieu dit qu'il efface nos péchés, il ne s'en rappellera plus jamais. Jamais, jamais. Et on peut avoir l'assurance que non seulement il ne s'en rappelle plus maintenant, mais aussi dans l'éternité, quand on va être dans sa présence, il ne nous ramènera jamais à dire, écoute, en 2013, tu as fait ci, en 2012, tu as fait ça. Puis, ah oui, mais là, je t'attendais pour te le dire. Jamais, jamais. Dieu a effacé. Quand Dieu efface, il n'est pas comme les hommes pour ramener à la surface. Dieu, il efface. Quand Dieu dit, j'oublie, il oublie quoi? Il s'est envoyé dans son océan d'amour. Et heureusement, que Dieu n'oublie pas comme nous, quoi. Et heureusement que Dieu efface pas comme nous, quoi. Est-ce qu'on peut s'imaginer combien on est des gens indignes par rapport à son amour, quoi? Et qui nous rend dignes en Jésus-Christ. Quand Dieu dit « j'efface, j'efface ». Mais quand il dit aussi « j'effacerai le méchant de la surface de la terre », il efface aussi. Vous ne le reverrez plus jamais, le méchant, sur la surface de la terre. Parce qu'il y a un lieu de préparer pour lui, pour l'éternité. Dieu ne fait pas juste effacer les péchés. Prenez votre concordance, regardez dans les mots effacés. Le méchant, Dieu va l'effacer de la surface de la terre. Pour toujours. Ça veut dire quoi? Que Dieu ne reviendra pas sur sa parole. Quoi. C'est oublié, t'es oublié, toi. Il y a un lieu de préparer pour toi et c'est là que tu t'en vas, quoi. Frères et sœurs, on a un Dieu extraordinaire. Et moi, ce sont des... Ça, cette prière dans le 139, le psaume 140 et le psaume 143, c'est une prière qui me heurte énormément, quoi. Ça m'évite de rentrer le matin puis de prendre mon temps de rendez-vous avec le Seigneur. Je dis, oh, Seigneur, bon, mais tu sais ce qui s'est passé hier, je te demande pardon, quoi. Facile de dire ça, c'est vrai, hein? Là, le Saint-Esprit dit, tu me demandes pardon, pourquoi? Hein? Ça ne sort pas, quoi. Hein? Mais quand on se présente devant le Seigneur, on dit, Seigneur, sonde mon cœur, Seigneur. Sonde mon cœur, Seigneur. Tu connais mes pensées mieux que moi. Sonde mon cœur, Seigneur. Oui, ramène à la surface ce qui est enfoui depuis longtemps, afin que je puisse le reconnaître et le confesser. N'est-ce pas quelque peu l'histoire du fils prodigue dans Luc chapitre 15, versets 11 à 24? Il s'est présenté devant son père, revêtu d'habits tachés par le péché. Et suite à sa confession, le père va dire à ses serviteurs, « Dépêchez-vous d'apporter la plus belle robe et mettez-lui. » Ça veut dire que d'abord, il a été lavé. On ne met pas des habits propres sur quelqu'un qui est sale. Il a d'abord été lavé. Il a dû se débarrasser de ses vêtements tachés par le péché. Il a dû d'abord ensuite être lavé et ensuite porter une robe. Une robe, et c'est le Père qui lui donne cette robe, qu'il a fait mettre par ses serviteurs. Nous devons être en mesure de rencontrer, pour encore être en mesure de rencontrer le Seigneur aussi. Cela implique que nous devons confesser notre péché. Si Dieu met un péché en lumière dans notre vie, il devrait y avoir une confession de péché. Dans le psaume 32, verset 5, David dit, « J'ai été fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché ma faute. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. » C'est-à-dire, je le reconnaîtrai devant le Seigneur que j'ai péché. La confession de cette action par laquelle non seulement nous reconnaissons notre péché, mais la confession, c'est aussi qu'on avoue notre manquement, quoi, notre manquement vers Dieu. En d'autres mots, la confession, et on voit ça à l'étude biblique le mercredi soir, la confession vise à faire un nettoyage en notre vie, en enlevant tout ce qui peut salir et souiller notre cœur. Lorsqu'un péché est mis en lumière par le Seigneur, il devrait être alors suivi par la repentance du péché. Et c'est ce que Paul dit dans Actes chapitre 3, versets 16 à 19. Il dit « Repentez-vous et convertissez-vous ». La conversion, elle suit la repentance. C'est pas on est converti, puis après ça, on se repent. Il y a d'abord une repentance. Quelqu'un ne peut pas se convertir s'il ne reconnaît pas qu'il est pécheur. Et lorsque tu reconnais que tu es pécheur, mais tu dois te repentir, parce que c'est pas aux hommes que tu as commis des fautes, c'est pas envers la société que tu as commis des choses, c'est contre la loi de Dieu que tu as péché, et c'est à Dieu que tu dois confesser tes péchés. Mais la repentance, elle est importante. La repentance, elle est essentielle pour que quelqu'un puisse être sauvé. Dans sa première épître, Jean écrit, « Mes petits-enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. » Moi, j'étais dans la police, hein, et je ne vous raconterai pas toutes les magouilles qu'il y a entre les avocats et tout ça. Mais ici, on nous parle que Jésus-Christ, c'est notre avocat. Vous savez, vous êtes avec un avocat, vous êtes condamné au criminel, vous avez l'impression qu'il va vous défendre. Vous le payez en plus, hein. Ouais, et il vient voir le policier enquêteur, puis il bargaine avec lui, quoi, hein. « Ah, écoute, donne-moi ça, puis je vais y faire croire que, bon, j'ai réussi à gagner pour lui. On va couper la poire en deux. » C'est comme ça, quoi. On peut acheter des avocats. Hein. J'espère qu'il n'y a pas d'avocats dans la salle ce matin. On peut acheter des avocats. Hein. Ouais. Mais on ne peut pas acheter le Seigneur Jésus. Et si on dit qu'il est notre avocat, on peut être certain d'une chose, il ne sera jamais l'avocat contre nous. Il est notre avocat, il est pour nous, quoi. Et quand on pêche, qu'on confesse nos péchés, il défend notre cause devant le trône de la grâce de Dieu, quoi. Elle dit, Seigneur Dieu, je viens plaider sa cause. Et sur quelle base que je viens plaider sa cause? Sur la base de ce que j'ai accompli à la croix pour lui. La faute qui devrait le condamner devant ton trône ce matin, cette faute-là, elle a été effacée à la croix par le sang que j'ai versé, quoi. Et le Père, il dit, écoute, sur la base de ce que tu as accompli pour lui, parce qu'il a reconnu que tu avais accompli ça pour lui, je lui pardonne, j'efface son péché, quoi. Dieu nous aime, mais Dieu c'est juste et Dieu est un juste juge, dit Abraham. Et Dieu, ce qu'il veut, c'est qu'il ne veut pas nous condamner. Dieu veut nous sauver. Il nous donne tous les moyens pour être sauvés. Et non seulement il nous donne tous les moyens à travers la croix, mais il nous donne en plus un avocat qui permet, après qu'on ait accepté Jésus-Christ, qui nous permet par la suite, lorsqu'on tombe, de défendre notre cause auprès du trône de la grâce de Dieu. C'est extraordinaire. Moi, je trouve ça beau parce que des fois, on peut commettre des péchés. Si on n'avait pas d'avocat, on se dit comment je m'y prends là. Comment je m'y prends pour confesser ça à Dieu? Est-ce que je suis certain qu'il va me pardonner? Est-ce que je suis certain qu'il va l'effacer, quoi? On a des belles promesses dans la Bible, mais on en a une qui est sûre, c'est que Jésus-Christ est notre avocat auprès du Père. Il plaide votre cause, quoi, en tout temps. Mais il faut passer par une confession des péchés, une repentance des péchés. Jean dit, il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, c'est-à-dire il s'est offert en sacrifice, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Jésus nous dit que l'objectif de la vie chrétienne, c'est d'être purifié de tout péché. Mais si jamais nous péchons, nous pouvons être purifiés du péché. Dans Jean, 1 Jean chapitre 1, verset 9, si nous confessons à Dieu, nous pouvons avoir confiance en lui, il est fidèle et juste pour nous pardonner, pour nous purifier de tout mal. Pour être notre mieux spirituellement parlant, nous devons avoir pris connaissance de notre péché. Deuxièmement, nous devons confesser notre péché. Et troisièmement, nous devons nous purifier de tout péché. Vous êtes amen à ça? John B. Gold, qui est mort en 1886, qui prêchait sur les dangers de l'alcool, est mort pendant qu'il prêchait un de ses fameux sermons. Et les dernières paroles de son sermon furent « Jeune homme, garde ton dossier judiciaire vierge. Garde-toi pur devant le trône de la grâce de Dieu. » Le pasteur méthodiste Charles Tindley l'exprime bien dans un cantique qu'il a composé. « Rien entre mon âme et mon sauveur, rien du rêve illusoire de ce monde. J'ai renoncé à tout plaisir charnel. J'appartiens à Jésus. Il n'y a rien entre lui et moi qui peuvent nous séparer. » Et pour rencontrer le Seigneur, nous devons aussi être consacrés. La deuxième chose que Naomi va enseigner à Ruth ici, alors premièrement, lave-toi, purifie-toi, c'est de se oindre d'huile. Et souvent, on fait l'huile dans la parole de Dieu. Tout de suite, on se braque sur le Saint-Esprit, mais ça a d'autres significations aussi. Elle dit au verset 3, « Lave-toi et oint-toi. » Et l'action de se oindre d'huile est très fréquente dans la Bible. Cela parce que cela parle de verser de l'huile sur la tête et le corps de quelqu'un, et cette façon de faire fait référence à la consécration d'une vie. Quel était le but principal pour lequel on se oignait d'huile? À cette époque, on se oignait d'huile à chaque jour, et il était d'usage courant de le faire pour les mêmes raisons que nous utilisons du parfum ou de l'eau de Cologne. Naomi était en train de dire à Ruth, « Je veux que tu sentes bon lorsque tu rencontreras Boaz. » Rappelez-vous Marie qui verse du parfum, le nard pur. Ça s'est dégagé partout, quoi. Donc, dans l'huile, il y avait du parfum. Et en fait, le but du parfum, aussi un des buts, c'est de faire en sorte que ça sente bon. Et ici, quand Naomi, elle dit à Ruth, « Eh bien, oint-toi », ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire, « Écoute, mets-toi, parfume-toi, je veux que tu sentes bon quand tu vas rencontrer Boaz. » Paul mentionne dans Philippiens, chapitre 4, verset 18, en parlant des actions et du service des chrétiens de Philippe, que c'était comme d'une bonne odeur aux yeux de Dieu. « Je certifie donc, dit Paul, que j'ai reçu tout ce qu'elle m'avait envoyé. C'est plus que suffisant. » Il parle d'un don qu'il attendait. « Maintenant qu'Épaphrodite m'a apporté vos dons, je dispose de tout le nécessaire. Vos dons sont comme une offrande d'agréable odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui plaît. » Frères et sœurs, nos vies doivent être comme une offrande d'agréable odeur à Dieu. Elles doivent être consacrées à Dieu et lui plaire. Et ici, le oindre, c'est vraiment une consécration, quoi. C'est vraiment, ça symbolise la consécration. Paul écrit, 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 15, « Nous sommes en effet comme un parfum à l'odeur agréable, offert par le Christ à Dieu. Nous le sommes pour ceux qui sont sur la voie du salut, pour ceux qui se perdent. » Le mot « odeur » est synonyme de « fragrance » et il signifie une odeur qui dégage quelque chose d'agréable. Notre vie devrait être vécue de façon à réjouir le cœur de Dieu plutôt que de l'attrister. Elle devrait être une bénédiction plutôt qu'un fardeau. Elle devrait dégager une odeur agréable plutôt qu'une odeur nauséabonde. Le but de la cérémonie d'onction d'huile, eh bien, ça avait pour but de mettre à part ou de retirer quelque chose ou quelqu'un du monde pour un but spirituel. Je vais vous donner un exemple. David a été oint comme roi, c'est-à-dire qu'il a été mis à part ou retiré du peuple comme simple citoyen, et mis à part pour Dieu lorsqu'il a été couronné comme roi. Lorsqu'on dit que quelqu'un, c'est un oint de Dieu, bon, on n'est pas dans un milieu ici, olé-olé, là, mais quand on dit que quelqu'un, c'est un oint de Dieu, c'est un serviteur qui est oint de Dieu, ça veut dire qu'on est en train de dire que c'est un serviteur qui est consacré entièrement à la cause de Christ. Malheureusement, on utilise le mot oint pour autre chose, mais c'est ce que ça veut dire, quoi. Quand on dit que ce frère, il est oint, que cette sœur, elle est oint, eh bien, ça veut dire que c'est une sœur qui est consacrée. Consacré à l'avancement du royaume de Dieu. Ça veut dire que c'est un frère qui est consacré, qui est engagé pour l'avancement du royaume de Christ. Ça fait partie aussi du mot, voyons. de la cérémonie d'onction d'huile. Dans la vie d'un croyant, la consécration consiste à être séparé du monde, à être mis à part pour Dieu. En tant que pécheurs, nous avons vécu comme des pécheurs. Mais en tant que saints, nous sommes maintenant appelés à vivre comme des saints. Je vais vous dire, on a eu un gros débat à Paris, quand à Montreuil, quand on est allé avec un jeune chrétien, qui était baptisé, qui était sauvé. Mais pour lui, et pour lui, on était tous des pécheurs, quoi. Et moi, ça me heurtait parce que je me disais, écoute, si tu es encore un pécheur, tu vas toujours continuer à pécher, quoi. Alors, quelle est la différence entre l'avant et ta rencontre avec Jésus-Christ et après ta rencontre avec Jésus-Christ? La rencontre avec Jésus-Christ, c'est un miracle. C'est tellement marquant que ça bouleverse ta vie que tu ne peux pas être la même alors que tu ne l'avais pas encore rencontré. Maintenant, je vous mets au défi ici. Il y a une centaine de personnes ce matin. Je vous mets au défi de me trouver dans le Nouveau Testament, dans les Épîtres de Paul, un seul endroit où Paul dit qu'on est des pécheurs en tant que chrétiens. Nulle part. Nulle part vous trouverez ça. Nous sommes des saints en Jésus-Christ. Soyez saints car je suis saint, dit l'Éternel. Nous sommes des saints en Jésus-Christ, avec la capacité de continuer à pécher, mais nous sommes des saints. Amen. C'est très important. Hein, on parle du psychologique, on parle du psychisme, mais c'est très important. Parce que moi, si je pars avec Jésus-Christ sur mes épaules, avec toujours l'idée que je suis un pécheur comme avant, bien, je vais avoir des combats toute ma vie, quoi. Par contre, si je me dis que je suis un saint en Jésus-Christ, et en étant uni à lui, c'est pendant Paul dans toutes ses épîtres, particulièrement dans Éphésiens. Quand il y a une tentation qui vient, Seigneur, la Bible dit, tu as été tenté en tout. On en a parlé mercredi. Tu as été tenté en toutes choses. Tu as vaincu toutes les tentations. Et la Bible nous dit qu'il n'y a aucune tentation que vous avez subie, que vous avez rencontrée, qu'il n'a pas eu. Mais il a tout remporté la victoire. Alors, quand on est uni à Christ dans la nouvelle naissance, on dit, Seigneur, tu la connais? Je ne sais pas si je vais passer pour un fou, mais moi, je parle comme ça avec le Seigneur. Hein. Je vois une tentation du Seigneur. Le diable, il ne la place pas là pour rien, quoi. Il sait que moi, si j'essaye par mes propres forces de m'en sortir, je vais tomber, quoi. Mais toi, Seigneur, toi, il y a 2000 ans, tu l'as eu, cette tentation-là. Toi, il y a 2000 ans, tu l'as vaincu, cette tentation-là. Alors, Seigneur, je la laisse. Règle ça pour moi. C'est ça, être uni en Christ. Hein. Le problème, on commence la justification par la foi, mais la sanctification, on tombe dans le piège de l'essayer de la faire par les œuvres. Non? Le juste vivra par la foi. Autant dans la sanctification. On doit s'appuyer sur Christ pour la justification. On doit s'appuyer sur Christ pour la sanctification. Parce que la Bible nous dit que c'est le Saint-Esprit qui nous sanctifie. Et le Saint-Esprit, c'est celui qui habite en nous. Amen. Peut-être que vous vivez des combats ce matin avec un péché. Mais essayez de simplement réfléchir, de méditer. Est-ce que c'est Christ qui lutte pour moi ou c'est moi qui est en train de lutter pour essayer de m'en débarrasser? Vous n'y arriverez jamais, jamais, jamais. Jamais. Jamais vous y arriverez. Et vous allez vous sentir doublement coupable parce que vous dites, hey, je suis un enfant de Dieu, je ne comprends pas, je commets les mêmes péchés qu'avant, avec la même cadence qu'avant. Ben oui, mais pauvre toi, tu fais comme avant. Tu essaies de t'en débarrasser par toi-même. On a des beaux exemples, c'est des miracles. Je pense à Paolo. Souvent, je pense à Paolo concernant. Je le prends comme exemple, quoi. Esclave de la boisson, il a témoigné. Je peux en parler, c'est public, son témoignage. On a eu quelqu'un d'autre qui essayait par ses propres forces, il tombait. Plus il essayait par ses propres forces de se débarrasser de la boisson, plus il s'enfonçait, plus il s'enfonçait. Et Paolo, il a compris une chose. À la croix, il y a deux choses qu'il faut faire. Accepter Jésus-Christ comme sauveur. Ça, il y a à peu près tout le monde qui le font. Mais l'accepter comme Seigneur, ça peut prendre une vie entière pour accepter Jésus-Christ comme Seigneur. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il porte sa croix et qu'il vienne avec moi. Renoncer à tes ambitions personnelles, c'est ce que ça veut dire. Renoncer à tout ce que toi t'aimais dans le monde. Parce que maintenant, tu n'es plus le Seigneur de ta vie. C'est moi qui est le Seigneur de ta vie, dit Jésus-Christ. Et tant aussi longtemps que tu veux rester le Seigneur de ta vie, tu vas rester à la ligne départ dans ta vie chrétienne. Tu vas finir par envier la vie des autres qui progressent. Mais tu as besoin de renoncer à tes ambitions personnelles parce que moi, j'ai des ambitions personnelles pour toi. Et moi, mes ambitions personnelles, elles ne correspondent pas nécessairement à tes ambitions personnelles. Et moi, écoute, par respect, par amour pour toi, je vais te laisser. Je vais te laisser rouler dans tes ambitions personnelles, mais tu ne peux pas savoir des bénédictions que tu perds parce que je ne suis pas le Seigneur de ta vie. Quand Paulo a compris ça, que Christ devait être non seulement son sauveur, mais le Seigneur de sa vie, il a été délivré de la boisson au boire. Vous pouvez lui présenter une bouteille de vin, vous direz pas, ah, non, non, je vais tomber. Non, il est délivré. Un jour, on est allé acheter de la pizza ensemble. On a acheté 5 pizzas, donc le propriétaire nous a offert une bouteille de vin parce qu'on avait pris 5 pizzas. Je me suis dit, qu'un, j'ai donné 5 pizzas à Paulo. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu choisis les pizzas? Bon, il dit, moi, n'importe quoi. J'ai donné la bouteille de vin. C'est comme s'il transportait une bouteille d'eau. Il est délivré, quoi. Il a compris que c'est jamais par ses propres forces. Frères et sœurs, la sanctification, c'est aussi par la foi. Seigneur Jésus, tu as tout accompli à la croix. Tout accompli, Seigneur, je veux que tu sois aussi mon Seigneur. Mon Seigneur. Ouais, accepter Jésus-Christ comme sauveur, ça, c'est une partie de l'Évangile. Accepter Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur, c'est différent. Parce que tant que vous ne l'accepterez pas comme Seigneur, vous allez garder votre caractère du premier Adam. Vous allez finir par détester vos frères, vos sœurs. Vous allez finir par détester la terre entière. Vous allez finir par envier ce que les autres ont que vous n'avez pas. Vous allez finir par jalouser la qualité de vie des autres que vous n'avez pas. Parce que, pourquoi? Parce que Seigneur Jésus, s'il n'est pas votre Seigneur, eh bien, vous ne pourrez pas hériter de son caractère, quoi. Vous ne pourrez pas. C'est là, c'est à l'intérieur. C'est en gestation. Mais il a besoin d'être le Seigneur de votre vie pour manifester son caractère à travers nous, quoi. Amen. C'est important, ça. Dans la vie d'un croyant, la consécration consiste à être séparé du monde, à être mis à part pour Dieu. Vous avez déjà entendu cette phrase, respecter la ligne, qui a déjà entendu ça? Bon, quelqu'un qui lit, qui regarde le Parlement anglais en comprend, mais vous avez déjà entendu cette phrase, respecter la ligne, cette parole était prononcée à l'époque au Parlement britannique, et souvent encore aujourd'hui. Au tout début, lorsque les membres du Parlement se réunissaient à la Chambre des communes, ils portaient des épées. Alors, vous imaginez quand ils n'étaient pas trop d'accord sur un point. Alors, afin d'éviter que les membres en viennent à se battre lors des débats houleux, le président de la Chambre des communes a dû forcer les partis du gouvernement et de l'opposition à s'asseoir de chaque côté de la Chambre, de telle sorte qu'ils se retrouvaient face à face. Alors, c'est comme au Canada, hein, on a le système anglais. Vous avez des bancs comme ça, vous avez des bancs comme ça, puis tout le monde se retrouve face à face. Alors, on a posé un tapis dans la grande salle sur lequel on avait imprimé 2 lignes, 2 longueurs d'épée et des empreintes de pied. Les membres étaient tenus de se tenir derrière leurs lignes respectives. Et lorsque la Chambre était en session parlementaire, et c'est encore jusqu'à aujourd'hui, lorsqu'un membre cherche à enjamber la ligne durant un débat, le président crie « Respectez la ligne !» C'est-à-dire qu'il y a une ligne que tu ne dois pas franchir. Ça délimite ton côté, ça délimite le côté de l'opposition. Frères et sœurs, le chrétien, il est appelé à tracer une ligne dans sa vie et à respecter cette ligne. D'un côté, il y a les choses du monde, et de l'autre côté, il y a les choses de Dieu. Les chrétiens prennent alors position de vivre du côté de la ligne avec Dieu, c'est-à-dire du même côté où se trouve Dieu. C'est ce qui correspond à une vie qui est ointe et consacrée. C'est ce genre de vie consacrée que pratiquent ceux qui aspirent à rencontrer un jour le Seigneur. Troisièmement, c'est la dernière partie, nous est rappelé que si nous voulons rencontrer le Seigneur, nous devons nous revêtir d'habits. Nous voyons finalement qu'Anaomi dit à Ruth, mets des habits, lave-toi et oint-toi, puis remets tes habits. Ruth était arrivée à Moab en portant les vêtements d'une veuve. Elle avait de l'année dans le champ en portant les vêtements d'une servante. Naomi lui dit maintenant, je veux que tu portes quelque chose de spécial. Je veux que tu portes cette magnifique robe que tu as. Je veux que tu sois jolie pour Boaz. Frères et sœurs, dans la vie chrétienne, les vêtements parlent de quelque chose qui est vu par ceux qui se trouvent autour de nous. L'habillement est une partie de notre vie que les autres voient. Il fait référence à notre témoignage et il témoigne pour nous ou contre nous. Nous devrions porter des vêtements qui sont appropriés. Différentes situations nous appellent à porter différents types de vêtements. Vous ne voudriez quand même pas porter un manteau en laine aux îles Canaries au mois de juillet, ni porter un t-shirt et un short au mois de janvier en Alaska. Vous ne voudriez pas porter un manteau à paillettes et un manteau de fourrure pour assister à un match de foot, ni porter un jeans et un t-shirt si vous êtes invité au château de Laken pour rencontrer le roi. Différentes occasions nous appellent à porter différentes tenues vestimentaires. Il y a une façon de vivre qui accompagne le témoignage de ceux qui sont sauvés. Il y a une façon de vivre qui devrait être rejetée, une façon de vivre qui devrait être adoptée par tous ceux qui se disent chrétiens. Un chrétien ne voudrait pas porter certains vêtements, particulièrement ceux qui affichent toutes sortes de messages qui ne sont pas édifiants. Je parle de messages sataniques ou d'autres messages qu'on voit souvent sur des t-shirts, quoi, que les gens portent, sans savoir vraiment ce qu'ils portent, quoi, ce que ce message veut dire. À son époque, Job dit, dans Job chapitre 29, 14 à 15, « Le sens de la justice était mon vêtement, mon respect pour le droit, un manteau, un turban. Pour l'aveugle, j'étais les yeux qui lui manquaient. Pour l'infirme, les pieds qui lui faisaient défaut. » L'apôtre Paul écrit dans Éphésiens chapitre 4, versets 22 à 24, Vous devez vous débarrasser de votre vieille nature qui déterminait la façon dont vous vous conduisiez dans le passé. Cette vieille nature que ses désirs trompeurs mènent à la ruine. Il faut que vous soyez complètement renouvelés dans votre cœur et dans votre esprit. Revêtez-vous de la nouvelle nature qui est créée à la ressemblance de Dieu et se manifeste dans la vie juste et sainte qu'inspire la vérité. Le chrétien qui porte comme vêtement celui de la nouvelle nature créée à la ressemblance de Dieu aura le discernement nécessaire pour savoir ce qu'il peut porter et ne pas porter, pour que son témoignage soit efficace auprès de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Frères et sœurs, en tant que chrétiens, on parle des musulmans, c'est pas compliqué, les musulmans, hein, ceux qui marchent vraiment selon la charia et tout ça, bon, ils se ressemblent tous, quoi, hein, ils se ressemblent tous, ils sont habillés tous de la même façon. On a évacué depuis des années, dans notre culture chrétienne, la tenue vestimentaire. Et on doit faire attention à la façon qu'on s'habille. Déjà, pour un musulman, une fille qui ne porte pas de voile, c'est une putain. Faisons en sorte de ne pas stimuler leur cerveau, leur libido, pour passer pour des prostituées, pour des putains, alors qu'on est des enfants de Dieu, sauvés par grâce. Dans l'Église, on a besoin de faire attention à notre tenue vestimentaire. Là, je ne vous dis pas ça parce que je suis un obsédé sexuel. Je vous dis ça parce que je connais des hommes qui ont des problèmes. Et la Bible nous dit, il ne faut pas être une pierre d'achoppement pour son frère, pour sa sœur. Portons une tenue vestimentaire appropriée. Regardons-nous dans un miroir le matin avant de partir. Et disons-nous, si Jésus-Christ était en avant ce matin et qu'il avait les yeux fixés sur moi pendant le message, est-ce que je serai bien dans ma peau par la façon que je suis habillé? Est-ce que je serai à l'aise devant Jésus par la façon dont je suis habillé? Amen. Ça, c'est important. J'essaie de le dire le plus délicatement possible. Mais c'est important notre tenue vestimentaire, et je parle même pour les hommes. Faisons attention aux vêtements qu'on porte, pas trop ajustés. Les hommes savent ce que je veux dire. Les femmes, ce sont des êtres humains aussi. On a une façon de s'habiller qui est importante en tant que chrétien. Et souvent, dans notre tenue vestimentaire, les gens du monde vont se demander pourquoi on s'habille de telle façon, pourquoi on n'est pas provoquant, pourquoi on ne veut pas montrer nos formes. C'est une bonne raison. On sait que ce n'est pas ça qui va exciter le Seigneur, et on sait que ce n'est pas ça qui va nous faire rentrer au ciel. Le Seigneur veut qu'on soit des sacrifices vivants, d'une bonne odeur à ses yeux. Et la tenue vestimentaire, c'est important aussi. Nous devons aussi porter des vêtements qui sont attrayants ou agréables à la vue. Tout ce que Naomi demande à Ruth de faire, c'est de se rendre attrayante pour Boaz. Il était déjà attiré par elle, on l'a vu dans les versets précédents, mais cette fois-ci, Naomi voulait vraiment capter son attention. Elle lui dit, Ruth, remets tes habits et descends à l'air. Pas à l'air, A-I-R-E, hein? Descends à l'air. En d'autres mots, elle était en train de dire, Ruth, mets la plus belle robe que tu as, je veux que tu paraisses à ton mieux pour Boaz, quoi. Je veux que tu paraisses à ton mieux pour ton époux. Frères et sœurs, l'Église de Jésus-Christ, c'est l'épouse de Jésus. Faisons en sorte de nous préparer du mieux que nous pouvons, parce qu'on ne sait pas à quel moment il va revenir. Ouais, nous sommes son épouse, quoi, c'est extraordinaire. Dieu a décidé de se marier avec nous à travers cette relation que nous avons entreprise avec Jésus-Christ. Frères et sœurs, si quelqu'un devait écrire votre biographie, comment vous décrirait-il? Est-ce que votre biographie pourrait être vendue dans les librairies chrétiennes ou dans les librairies du monde? Lord de Peterborough fut logé pendant quelques mois chez François Fénelon, archevêque de Cambrai, Il était tellement émerveillé par sa piété et sa charité qu'il s'écria, « Si je prolonge mon séjour dans cette maison, je vais devenir chrétien et ce même malgré moi. » Quel témoignage! Alors qu'il était sur le point d'être ordonné pasteur, un jeune homme déclara qu'à une certaine période de sa vie, avant de se convertir, il baignait dans le péché. Mais, dit-il, il y avait un argument en faveur du christianisme que je ne pouvais jamais refuter. C'était la conduite cohérente et constante de mon père. Frères et sœurs, quel est le témoignage chrétien que nos enfants gardent de nous lorsqu'ils quittent nos maisons? Quel est le témoignage chrétien que nos enfants gardent de nous lorsqu'ils quittent nos maisons? Il est important de se rappeler que tout ce que Ruth a fait, c'est-à-dire se purifier, se oindre et se revêtir, vivait un seul but, celui de plaire ou d'être trouvé agréable aux yeux de Boaz. Tout comme Ruth, qui cette nuit-là vint se coucher aux pieds de Boaz, que nous puissions nous rappeler un jour que nous nous prosternerons aux pieds de Jésus. Faisons en sorte de paraître à notre mieux, afin d'être trouvé agréable à ses yeux. Amen.